Couture dans le Mid
avec Pierre Couture et Nick Cloutier.
Hey boy.
Radio X.
Ouais, mais c'est quand même gros comme nouvelle là. Ça vient juste de sortir aux États-Unis avec l'histoire de la pandémie puis le Anthony Fauci, le grand Manitou de la médecine aux États-Unis qui drivait le COVID show. Ben là, il vient d'être déclaré coupable d'outrage devant le Congrès. Lui, il avait refusé de répondre.
Ouais.
Aux questions.
Oui, il a invoqué le cinquième amendement.
Exactement.
111 fois, Pierre.
111 fois, ben là, il vient d'être... on n'y est pas avec le Congrès américain. Là, si tu ne veux pas répondre, c'est quand même quelque chose.
Lui,
il a quand même eu la grâce présidentielle par Biden aussi, il ne faut pas oublier.
Oui.
Au cas où il arrivait quelque chose, parce qu'il sentait que la soupe était chaude. Alors, regarde, ça ne s'invente pas. Pendant ce temps, ben, M. Arruda, lui, tout va bien ici au Québec. Jérôme Blanchet-Gravel, comment ça va?
Bonjour, messieurs. Très bien, vous?
Ça va très bien.
Oui, ça va bien. Mais Arruda, lui, c'est
ça roule.
Freestyle,
Arruda, ben, il vient de nommer, hein, c'est ça?
Oui, oui, oui. Oui.
Il est revenu.
Mauricie.
Exact.
Donc, ouais. Lui aussi qui bénéficie d'une certaine immunité. Ce qui est incroyable dans le cas de Fauci, c'est le décalage entre cette science qui se voulait si catégorique durant la pandémie et finalement l'incertitude. On a compris que c'était brouillon, finalement.
Ben, on a compris que le blanc ou noir était très gris, là.
C'est ça. Donc, beaucoup... en fait, on ne savait pas exactement ce qu'on faisait. Donc, d'un côté, cette science dont on parle, on invoque toujours la science avec un grand S. Vous rappelez-vous, on parlait toujours au nom de la science. On a sombré dans ce qu'on appelle le scientisme, quand la science devient une religion.
Exact.
Donc, c'est très paradoxal parce que la science est censée être le rationnel, alors qu'on est tombé dans l'irrationnel à travers cette espèce de religion de la science. Donc, d'un côté, c'est ça, cette pandémie, on nous sermonne, c'est un nouveau clergé qui nous dit quoi faire. Les fidèles se rendent à la messe. Ici, au Québec, ça a pris la forme, évidemment, des fameux points de presse. Et en découvrant les notes, par exemple, du docteur Fauci, dans cet étonnant, quand même, journal de bord, c'est étonnant qu'il ait...
Mais qu'il ait laissé des notes, parce qu'ici,
oui.
À Québec, ils n'ont pas laissé de notes, aucune note disponible.
Ça, c'est louche. Parce que quand on veut faire disparaître des traces dans l'histoire générale,
ouais,
parce qu'on
note.
A des choses à se reprocher, ouais. Rappelez-vous, sans faire des parallèles trop audacieux, là, quand on brûle les documents à la fin d'une guerre, c'est pas tout à fait...
Ben c'est ça, ils ont compris quelque chose, là, peut-être que...
Donc, mais quel décalage! Donc c'est ça, cette science, ces certitudes et finalement cette gestion tatillonne, brouillonne...
Et on copiait beaucoup le playbook des États-Unis. Hein? Souvent, là, c'était les CDC là, qui envoyaient des mémos. Puis après ça, ben, t'avais des firmes de relations publiques américaines.
Sans compter McKinsey.
Ben, McKinsey qui était devenu...
Uniformiser les décisions à l'échelle de l'Occident.
Certaines...
Puis Legault s'était vanté aussi, rappelez-vous.
Oui.
Premier soir de la COVID, je pense qu'il a dit... J'ai passé toute la nuit à regarder Fox News. Sûrement pas Fox News, parce que c'est plus à droite, là, mais une autre chaîne, là. Et donc,
CNN.
Legault s'était vanté de regarder la télévision américaine à temps plein.
Non, il se faisait toute peur après
tout
l'autre.
Tout qu'un plan de prévention.
Mais nos politiciens lavettes là, se sont écrasés devant ce lobby médical aussi.
Période sombre, les gens ne veulent pas entendre parler. Un certain nombre de gens, oui. Beaucoup de déni, on le sait encore aujourd'hui. Donc, il y a des gens qui ont honte aussi de ce qu'ils ont fait. Rappelez-vous, là, tu sais... évidemment, la délation.
Ben, le couvre-feu là, du 31 décembre, à quelques heures. Écoute, les restaurateurs avaient commandé. Les gens avaient réservé des restaurants partout. Et là, à quelques heures, t'annules tout ça pour remettre le monde dans un couvre-feu complètement inutile.
Ouais.
On l'a vu, là.
Oh oui. On est encore dedans. Hein? C'est-à-dire, on ne parle que de santé publique, finalement. Regardez cet été, les médias subventionnés, là, toutes les inepties. Rage du raton laveur.
Sanitarisme.
C'est le sanitarisme qui domine encore l'imaginaire. En tout cas, au Québec, c'est sûr. Tous les virus, la diarrhée explosive, écoutez, qui fait une manchette depuis 8-9, c'est pour ça que moi, ça me fait capoter.
Les salades qui se vendent pas.
Oui, ben, on a nuit aux producteurs de salades du Québec parce que les gens ont peur d'attraper la diarrhée en mangeant de la salade non américaine. Donc, on voit que alimenter un climat de peur nuit à notre propre économie, nuit à notre culture, nous nuit en tant que tel. C'est fou, là, écoutez. Honnêtement, moi, j'en reviens pas, là, les gens qui me suivent le savent, mais... Puis regardez ça d'étranger, c'est carrément désolant. La diarrhée explosive, écoutez, le message, les Américains déjà étaient un peu incommodants avec leurs tarifs. Le message, maintenant, les Américains nous font littéralement chier.
Ouais. Mais moi, je suis allé aux États-Unis cet été, j'ai jamais...
Un virus de diarrhée explosive.
J'ai jamais entendu parler de ça.
Je suis allé, moi, d'ailleurs, aussi.
J'ai pas entendu parler de ça.
J'ai pas été incommodé, en tout cas, du moins à Miami.
Et puis, je mangeais de la salade, tu sais, je veux pas.
Ouais.
Dans le Colorado, là.
T'es téméraire, toi, Pierre, t'as mangé de la salade.
Manger de la salade américaine.
Oui, courageux.
Il y en a qui prennent des risques pareils. Il y en a qui vivent vraiment
dangereusement.
Et puis, des boulettes de steak haché, pas de cuite à l'intérieur.
Je te crois pas.
Oui, le gars, il dit, c'est une nouvelle technique qu'on a. On fait des boulettes parce que ça dépend comment la viande est manipulée.
C'est un hérétique, mon Pierre.
Alors, voilà. Hey, campagne électorale, on est société chalet. Faut pas trop déranger le monde avant le 27 août. Hein.
Il y a ça, moi, c'est ça. Ben, le contraste aussi qu'on va voir apparaître dans les prochains jours, c'est-à-dire un été passé à parler de ces enjeux qui n'en sont pas. Et là, tout d'un coup, on va nous faire croire dans deux, trois jours, dans une semaine, qu'on s'intéresse à la question nationale. Et là, on veut s'affranchir de l'Empire britannique par une sécession. Est-ce que c'est crédible? Écoutez, moi, les gens savent, j'ai des sympathies souverainistes depuis longtemps, mais je pense que les gens ne sont pas là du tout. Ce qui intéresse les gens, évidemment, c'est l'explosion du coût de la vie. J'espère que ça va être suffisant pour avoir une campagne, parce qu'il y a 4 ans, on n'a pas vraiment eu de campagne. Moi, je considère que ça n'a jamais vraiment levé.
Ben, on sortait de la pandémie, puis Legault, il a ramassé tout ce qu'il pouvait, là.
Ben, écoutez, ça a été un nouveau plébiscite pour la CAQ. C'est une catastrophe, c'est une tragédie. Mais ça n'avait pas levé non plus. Moi, j'avais suivi ça, bon, il faut dire un peu à distance aussi, là, de Mexico. Mais j'avais pas senti qu'il y avait un intérêt là, majeur ou, pour sortir ce gouvernement-là ou en élire un autre. Donc, ben, je sais pas ce que ça va donner.
Il se prédait tellement d'argent. La CAQ se prédait de l'argent à tout le monde.
Ben, comme actuellement un peu.
Oui, c'est ça. Mais à l'époque, là, c'était des gré à gré. Il n'y avait même pas de contrat public. Là. C'était du gré à gré avec tout le monde. Donc, tout le monde fermait le gueule. Tout le monde a. Puis là,
ils ont acheté la paix. Là.
Là, c'est plus difficile à acheter. Là. Mais quand même, toi, tu dis, on va peut-être se réveiller. Moi, je pense que certains médias vont vouloir jouer l'agenda souverainiste, l'agenda aussi fédéraliste. On va avoir aussi l'avortement. On a commencé à avoir des brides. Là, hein? On va commencer à chirer sur l'avortement.
Les campagnes de salissage ont commencé.
Ouais.
Ça, c'est à prévoir. Est-ce qu'ils l'ont fait trop tôt? C'est-à-dire peut-être que...
Inconsciemment, là.
Peut-être que dans le fond, c'est déjà fait. Là, le moment avortement de la campagne arrive forcément quand il y a des questions.
Ah, ils vont venir avec ça, c'est sûr.
Que ce soit au fédéral ou au provincial. Donc, c'est vraiment une tactique de salissage ultra classique. Parler d'avortement, puis c'est vrai, puis on ne veut pas nécessairement en parler, mais tout le monde, il n'y a pas un consensus, mais c'est vrai qu'il y a des gens, par exemple, qui sont contre les avortements tardifs, etc., ou sexuels.
Oui, mais c'est même sélectifs. Pas une question. Là. Je veux dire, moi,
mais c'est pas une question.
Je suis pas là. Moi, l'avortement pro-choix, allez-y. Là.
Après, mais c'est ça. Écoutez, non, je pense pas qu'il faut aller là durant la campagne, mais il y a beaucoup de gens quand même qui aimeraient bon qu'on mette des balises. Mais gars, je pense que ça a été dit. Sans doute pas assez. Ça m'étonne. C'est quand un parti comme Québec solidaire, on ne veut pas de débat sur une question. C'est quand même rare en démocratie qu'on interdise un débat sur une question. Là, je pense que c'est pas le bon timing pour en parler, mais je pense que ça pourra revenir, disons, l'année prochaine.
Ben, c'est revenu
disons,
parce que tu as eu l'ex-ministre du Tourisme, là, Caroline Proulx, qui a été trouvée coupable, là, notamment là, sur ce qu'elle a fait.
Elle s'entête. Hein?
Ben, elle s'entête parce qu'elle ne met pas la liberté d'expression devant. Il ne parle d'avortement alors que cette organisation-là, c'était Rallye Feu, Foi et Liberté. C'est au centre des congrès. C'est une organisation qui s'appelle Harvest Ministries International qui vient de la Colombie-Britannique. Eux autres avaient réservé du 22 juin au 2 juillet à l'époque le centre des congrès pour faire leur congrès. Puis il n'y avait même pas de contenu anti-avortement là-dedans. Là. Puis elle a dit non, on annule tout.
Ce sont des chrétiens évangéliques, pour dire simplement.
Et la Cour a reconnu qu'elle avait erré, notamment sur la liberté d'expression.
La Cour supérieure a tranché. Madame Proulx a violé la liberté d'expression en voulant imposer finalement ses opinions personnelles à un lieu public. Là, donc, c'est assez clair. Les juges, je ne sais pas si on fait preuve de courage, parce que, bon, de temps en temps, ça prend des jugements quand même éclairés. Là.
Mais en même temps, qu'on soit d'accord ou non avec le débat, qu'on trouve que ça n'a aucun sens que des gens débattent de la question de l'avortement au Canada, c'est une chose. Sauf qu'ils ont le droit d'en débattre, c'est ça l'affaire. Ça
mais
fait
parce
partie
que là, en démocratie en général, on a le droit de débattre. Là.
Ben, quand un ministre s'ingère dans le contenu d'un congrès, là, c'est ça commence à être un peu élevé.
Elle a vraiment dépassé les bornes.
Elle a échappé.
Mais le pire, c'est qu'elle n'admet pas ses fautes sur Facebook et sur X. C'est revenu. Non, nous, elle en remet.
Ils veulent aller en
appel.
Ouais, ils veulent aller en appel.
Mais qu'est-ce que vous faites des droits des femmes dans les communautés musulmanes? Ça avait été un groupe de fidèles musulmans. Évidemment que le gouvernement ne serait pas intervenu. C'est la grande hypocrisie. Les gens le savent.
T'as eu un congrès à Laval la semaine dernière, les musulmans, puis la salle était coupée en deux avec un mur. T'avais les femmes d'un bord, puis t'avais les hommes de l'autre bord. Personne n'a parlé. C'est un journaliste de Gazette,
ça,
je pense.
Ça fait partie des valeurs québécoises. On invoque toujours ça. Puis en passant, il y a à peu près la moitié de la population sur Terre qui est contre l'avortement. Là. Faut-il le rappeler? Donc, il faut que vous soyez capable de composer avec l'idée que tout le monde n'a pas votre vision de l'avortement. Là. La moitié de l'humanité est encore religieuse. Certains diront superstitieuses. Puis, parmi tous les immigrants qui rentrent en passant de manière massive, là, tous ces gens-là ne sont pas pour l'avortement. Venez pas me faire croire que les Africains, chrétiens évangéliques ou non, les musulmans, les sikhs sont pour l'avortement. Donc, c'est vraiment double discours, contradiction totale. Donc, on ne peut pas d'un côté faire rentrer des milliers, des millions d'immigrés avec des valeurs ultra-traditionnelles et dire, nous, au Québec, on interdit non plus les discours qui seraient religieux ou conservateurs ou masculinistes, peu importe, là. Donc, il n'y a aucune cohérence
mais
non plus.
Mais on l'avait dit ici, là, quand c'est arrivé, là, je me souviens dans l'onde, on l'avait dit, là, elle vient de l'échapper, ils vont se faire poursuivre, il y a la Charte des droits et libertés, et c'est ce qu'ils ont évoqué d'ailleurs, puis ils ont gagné leur cause.
Elle a voulu simplement imposer ses opinions personnelles à une institution publique et centre des congrès.
Parce qu'il relevait du ministère du Tourisme.
Et eux, ils appellent ça de la lutte contre la désinformation.
Oui, on peut en parler de la désinformation à la CAQ, là. Voilà, voilà. Hey, ton média. Libre Média, vous arrivez là, de Cuba.
En fait,
vous êtes à Miami, mais vous avez rencontré beaucoup de la diaspora cubaine.
C'est ça. On vient d'un grand reportage à Miami. J'étais accompagné de Francis Denis, qui est notre directeur de la production vidéo. Donc, on est à la rencontre de la dissidence cubaine. On a rencontré plusieurs figures majeures de la dissidence, des exilés. Donc, ils nous ont raconté notamment comment ils avaient été incarcérés,
maltraités.
Deux figures majeures principales. D'abord, José Daniel Ferrer, qui est passé 12 ans, lui, dans les geôles du régime castriste.
Lui, il a critiqué le régime, il s'est retrouvé en dedans pendant 12 ans.
Oui, il avait participé à divers mouvements de protestation, mais sans non plus prendre les armes ou quoi que ce soit, pas quelque chose de très subversif. Bon, il n'y a pas d'armes, de toute façon, en circulation à Cuba.
Mais il l'aurait descendu, là. Je veux dire, il ne serait pas là pour en parler, là, d'après moi, là, s'il avait pris les armes à Cuba, là.
Non, hein? Mais c'est fou. Écoutez, donc... on a interviewé notamment cet homme-là, un artiste aussi qui vient juste d'arriver à Miami, une nouvelle figure de la dissidence, plus jeune, 38 ans, Luis Manuel Otero Alcántara, qui lui a passé 5 ans dans les prisons du régime castriste pour avoir participé à un mouvement là, pour la liberté d'expression et artistique.
Fait que là, t'as de la bien-pensance ici au Québec là,
qui
nous parle de la liberté d'expression puis qu'ils sont prêts à faire arrêter. Puis ils prenaient leurs vacances à Cuba puis tout était beau puis tout était fin.
D'ailleurs, Luis Manuel, j'y ai posé la question, comment tu trouves ça, toi, les artistes occidentaux, québécois, peu importe, qui appuient à demi-mot le régime cubain, lui, il en revient pas. Puis c'est un artiste pur jus, là, c'est-à-dire... Il n'y a personne qui peut faire à croire que le régime castriste est légitime. C'est un régime qui est criminel, qui utilise les méthodes du fascisme. Écoutez,
ils ont détourné des milliards de dollars.
Eux décrivent les prisons du castrisme comme des camps de concentration. Puis tout ce qu'ils ont décrit, moi, je n'en reviens pas de leur témoignage, tout ce qu'ils ont décrit, c'est tellement poignant qu'honnêtement, il va falloir même faire un peu de censure là, pour ne pas perdre l'algorithme, parce qu'ils ont décrit des choses en prison qui se disent plus ou moins. Comment on utilise, par exemple, les prisonniers.
On les martyrisait, on devait faire des techniques.
C'est de la torture psychologique, torture physique.
Le sac avec l'eau, puis tout.
Toutes sortes de méthodes qui ont été décrites. Moi, j'admire vraiment le courage de ces gars-là. On doit les prendre en exemple. Puis nous, on se regarde le nombril à longueur d'année. Puis, ça a été un très bon reportage. On a aussi rencontré une femme dont le mari a participé à la baie des cochons en 1961, le débarquement de Cubains à Miami. On a à l'Université de Floride aussi interviewé une sommité de l'Amérique latine, M. Eduardo Gamara, qui lui nous a raconté combien ça coûterait, en gros, reconstruire l'île, parce que c'est un gros chantier financier.
Ah,
bien,
ça va être énorme. Rubio est vu comment dans tout ça?
Rubio, les Américains sont perçus comme des alliés, mais aussi on s'en méfie. Hein? C'est-à-dire, moi, j'ai parlé à M. Ferrer, par exemple, je lui demandais, on dit que les exilés cubains à Miami, ce sont vraiment des gens à la solde des Américains. Ouais. Il dit non, les Américains nous écoutent, puis ils nous écoutent pas. Ils sont très indépendants, finalement, de l'administration américaine. Donc, c'est pas vrai que ce sont des marionnettes non plus des États-Unis, ces dissidents-là. Puis j'ai publié quelques photos là, avec les gens en question. Et là, sur la toile, on me dit, mais ce sont des acteurs, hein, c'est des gens qui, finalement... disent n'importe quoi pour salir le régime cubain. Mais je peux vous le dire, si ces gens-là sont des acteurs, ils pourraient remporter un prix d'interprétation aux Oscars.
Ah oui, à ce point-là.
Non, leur sincérité est très, très claire. Non, je vous le dis, des entrevues très, très, très marquantes.
Comment ils voient la suite, eux? Parce que là, on est là. Là, le régime pourrait tomber. Il pourrait avoir un renversement, c'est-à-dire que on laisse, peut-être comme au Venezuela, on laisse les gens-là, mais... Vous devenez capitaliste, là. Et là, les compagnies américaines peuvent rentrer...
La question, d'après moi, Pierre, c'est est-ce que Puerto Rico est l'avenir de Cuba? C'est-à-dire, est-ce que Cuba, sans régime castriste, c'est le prochain Puerto Rico? Hein, parce qu'on sait, c'est une sorte de tutelle à moitié Puerto Rico.
Ouais, puis on les traite pas très bien, hein, Puerto Rico, les Américains, là.
Ils ont le passeport américain, ce qui est déjà un grand avantage par rapport au Mexique.
Mais tu sais,
tu fais bien de mentionner
toutes les infrastructures, là, tout ça, là, tu sais.
Mais c'est Caraïbes, hein. Ouais. Vous savez, les Caraïbes, c'est pour le climat.
Ça refaire, là.
Les ouragans, les tremblements de terre, là, tout ça. Donc, c'est fréquent.
Ils se sentent, eux autres, isolés et abandonnés la mère patrie. Là, tu sais,
oui, effectivement. Veut, là. Ils se sentent abandonnés. Puis depuis justement le fameux ouragan Maria, il y a beaucoup de gens qui ont quitté, qui n'ont pas pu revenir. Un problème de gentrification. En tout cas, bref, pour Cuba, il y a deux scénarios. Évidemment, les Américains interviennent militairement avant 2027. José Daniel Ferrer le pense. Sinon, c'est un régime qui encore est assez résilient et qui va durer. Et bon, dans le cas du Venezuela, on voit que les Américains sont capables de transiger actuellement avec le régime chaviste. Donc, avec Delcy Rodriguez, qui est l'ex-présidente de Maduro, qui vraiment fait affaire avec les Américains. Donc là, les Américains, c'est drôle parce que le Venezuela est en train de se convertir en espèce de régime de gauche appuyé par les États-Unis. C'est très paradoxal. Donc, c'est sûr que les Américains ne cherchent pas toujours la démocratie non plus.
Mais ils vont se gosser quelque chose peut-être à l'intérieur pour sortir.
La question, est-ce qu'il y a une Delcy Rodriguez à Cuba? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a, quelqu'un du régime qui pourrait trahir, entre guillemets, le régime pour s'allier avec les Américains? On ne sait pas qui est cette personne-là encore. Mais c'est sûr que ces gars-là ont besoin d'espoir, ces gens-là, ces femmes-là aussi.
Il faut que les dollars aussi du tourisme reviennent. Ouais. Parce que c'est ce qui tenait le régime en place.
Mais il y en a qui sont plus pessimistes. M. Gamara me disait à l'Université de Floride, un beau campus en passant, il y a des tortues. En tout cas, bref. C'est comme un grand golf. Là. Il me disait, écoutez, moi, je suis à Miami depuis 40 ans. Ça fait 40 ans qu'on prédit la chute du régime castriste la semaine prochaine.
Non, c'est ça, ça peut être long encore. Hein? Peut-être le fruit n'est pas encore mûr.
Mais c'est un régime à l'agonie quand même, mais... Que voulez-vous? Des criminels qui contrôlent un appareil d'État, ça peut durer un certain temps.
Voilà. Jérôme Blanchet-Gravel, Libre Média, les gens peuvent s'abonner?
Oui, idéalement, au libre-media.com. Aidez-nous à produire plus de reportages dans ce genre-là, sortir des sentiers battus, sortir de la bien-pensance. Puis votre appui fait toute la différence.
Merci beaucoup. Après la pause, l'économie, on vient.
Couture dans le mid.
Téléphone, texto. 418-670-9098.
Radio X.